Ça s'appelle Au détour d'une rencontre. C'est une émission qui vous propose de partir à la rencontre d'une personne, d'un projet, d'un métier, d'un engagement, d'une réalité de vie. C'est une émission qui parle des autres, de soi, qui questionne ce que nous sommes, ce qui est, ce que nous faisons, dans quel but.
Alors, je m'appelle Marie-Claire Raoul, j'ai bientôt 60 ans, je suis née à Toulon, je vis à Brest et je suis artiste plasticienne. Manger, dormir, souffler matin, rater, partir ma route de la même. Pourquoi je suis née à Toulon? Parce que mon père était dans la marine nationale et donc ma mère a toujours voulu le suivre dans ses différents ports d'attache. Et donc je suis née à Toulon parce que le port d'attache de mon père était à Toulon à cette époque-là. Voilà. En fait, notre ancrage, c'était ma mère. On était 5, donc même pas assez nombreux, et elle était toute seule pour nous gérer, donc c'était pas évident. Mon père est resté quand même sur une position de retrait par rapport à nous, même s'il était présent. Du coup, le dialogue restait toujours avec ma mère, en fait. Donc, au fond, on le voyait plus comme la personne qui mettait des règles, mais qui ne discutait pas avec nous. Voilà. Après, c'était comme ça, peut-être aussi une époque où les hommes étaient beaucoup plus en retrait par rapport à la vie de famille aussi. Hein. Je crois que ça ne devait pas être que chez nous, c'était un peu partout pareil. Mon père avait commencé très tôt, hein, puisqu'il est parti à 14 ans comme mousse, et puis bon, après, il a fait sa carrière dans la marine. Et donc, il a dû arrêter, il a dû prendre sa retraite à 45 ans, quelque chose comme ça. Donc, il est revenu vivre sur terre, on va dire, hein, parce que apparemment, elle était toujours sur les bateaux. Et en fait, ben, pour ma mère, ça a été difficile. Parce que justement, elle était totalement autonome avant. Et puis tout d'un coup, elle s'est retrouvée à devoir gérer aussi la présence de mon père. Quand mon père a pris sa retraite, il a trouvé un travail en Loire-Atlantique. Donc on est venu habiter en Loire-Atlantique. Alors un tout petit, une petite ville qui s'appelle Saint-Brévin-les-Pins. Et on est resté 4 ans là-bas. Et après, c'était une petite ville, donc pour les études, il n'y avait pas de lycée, tout ça. Il aurait fallu qu'on aille en pension. Donc, ma mère a décidé de déménager à Nantes. Moi, j'ai fini ma scolarité à Nantes. J'ai fait un bac scientifique. Hein, bac, à l'époque, on disait le bac C. Pas parce que j'étais bonne en maths, hein, mais... Mais parce que c'était là où il y avait le moins de matière, donc je me suis dit ça doit être plus facile, il y a moins de travail.
C'est un très bon argument.
Bon, voilà. Mais vraiment, non, j'étais pas bonne en maths, tout ça. Et donc, en fait, je sais pas, j'avais en tête de faire plutôt médecine. Et puis, en même temps, moi, c'est toujours compliqué hein, quand t'es... En même temps, je trouvais que c'était trop facile, quoi. Tu vois.
La médecine, c'est trop facile.
Pas les études en soi, mais le fait de te dire que... Donc, comme t'es médecin, tu soignes les gens, donc tu fais du bien à la planète, tu fais du bien à tes contemporains, enfin, les personnes qui sont là. Donc, tu es une bonne personne. Donc, je trouvais ça trop facile, d'une certaine manière. Ah, t'es compliqué hein, quand t'as 20 ans. Enfin, j'en ai pas 20, mais bref. Du coup, je sais pas, 3 mois avant le bac, j'ai dit à mes parents, enfin à ma mère, je lui ai dit « Non, mais finalement, moi, ce que je veux faire, c'est quelque chose autour de la création. Tu vois, de l'art, quoi. Waouh !» Alors là, mes parents, ils étaient complètement paumés parce que c'était pas du tout... leur milieu, quoi. Ils connaissaient personne là-dedans, vous voyez, vraiment pas. Mais ok, tu veux faire ça. Donc, à l'époque, Il y avait les écoles des beaux-arts, hein, déjà, hein, quand même. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas aller dans une école des beaux-arts non plus. Je trouvais ça triste. Et puis aussi, parce que pour moi, c'était quand même très abstrait. L'art, beaux-arts, c'était très abstrait. Je pensais plutôt me diriger vers peut-être de l'art appliqué, tu vois, un truc plus concret quand même. Et aussi, j'avais envie de quitter un peu le noyau familial. Et donc, j'avais ça aussi. C'est qu'en fait, les beaux-arts, tu pouvais les faire à Nantes. Alors que pour rentrer dans une école d'art appliqué, tu étais obligé de passer par... tu étais obligé d'aller à Paris, il n'y en avait pas à l'époque. Ça n'existait pas. Voilà, j'ai donc passé à ce qu'on appelait à l'époque un DSAA, mode et environnement. Et suite à ce diplôme, il fallait trouver du travail. Et donc, mon travail, c'était de faire donc je faisais des motifs, quoi, si tu veux, pour différentes marques de mode ou de linge de maison. Là, c'était du maillot de bain. Donc, il y avait Dorothée Nice, il y avait Descamps. Je travaillais pour Christian Dior, enfin, tu vois, pour plusieurs marques comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à travailler pour Cacharel en freelance. Ils avaient besoin de coloristes. Alors, qu'est-ce que c'est une coloriste? En fait, il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, on faisait tout manuellement. Donc, quand on cherchait une couleur, on la cherchait manuellement avec de la gouache, tout simplement. Donc, tu fais un motif, tu crées un motif de textile et tu dois le décliner en plusieurs harmonies de couleurs. Et donc, la coloriste, elle se charge justement de trouver ses couleurs. Et on faisait tout comme ça... manuellement, quoi. Alors, c'était assez... moi, j'aimais bien, parce que c'est de la peinture, quoi. Donc, c'est de la patouille, quoi. Et puis, c'est de la couleur. Moi, j'adore la couleur, hein. Puis, la couleur, c'est des nuances. C'est sans fin, les nuances, quoi. Je trouvais que ce que je faisais, c'était bien. Donc, j'étais donc styliste, tu vois. Alors, tu proposes des formes. Là, c'était la chemise. Hein. Cacharel, c'est quand même assez classique. C'est intéressant parce que c'est des très belles... C'était des belles matières, tu vois. Mais j'ai eu envie, à un moment donné, de... replonger dans un processus plus de créatif, quoi. Et donc de prendre un peu de recul par rapport à ça. Et puis en plus, Franck a eu la proposition de quitter la région parisienne, parce que donc l'entreprise de Franck, tout le service de recherche déménageait en Bretagne. Donc, on a réfléchi et on s'est dit, tiens, pourquoi pas quitter Paris et aller vivre en Bretagne. Bon, moi, la Bretagne, je connaissais un petit peu, Franck, pas du tout. Mais en fait, Franck est tombé amoureux de la Bretagne, hein, quand même, il faut le dire. Donc, on s'est installé à l'Opérette. Je pense que moi, j'ai quand même, pour moi, ça a quand même été un déclash très très fort, quoi, parce qu'il y avait il y avait ce décalage donc d'univers, mais aussi de manière de fonctionner. Alors moi, du coup, je me suis mis complètement en dehors. Du coup, j'ai vraiment fait une rupture avec le milieu du design, de la mode, de la création finalement d'où je venais. Et mais du coup, peut-être une forme de solitude aussi, dans le mode, je fais mes propres créations. Alors donc, évidemment, très intéressant, mais en même temps, quand même perturbant, quoi. Et alors, il y a aussi quelque chose, c'est qu'en fait, quand tu commences comme ça à faire un travail très personnel, très artistique, si tu veux, en fait, c'est presque un piège. Dans le sens où tu veux plus t'arrêter. C'est comme un jeu, quoi, un jeu de hasard, tu sais, où les gens qui vont au casino, ils perdent, mais ils continuent. Des fois, ils gagnent, des fois, ils perdent, mais ils continuent, quoi. Tu vois, c'est pas... Tu fais pas... Même s'ils perdent plus que ce qu'ils gagnent, ils continuent, quoi. C'est plus fort que... Moi, c'est un peu pareil, là. Ou quand tu fais une recherche, tu vois, j'imagine... ou c'est peut-être plus... quand tu fais une recherche policière, tu sais, quand tu fais une enquête policière, souvent dans les films, moi j'adore ça, dans les films policiers, tu vois le policier, tu vois, il est obsédé par l'enquête qu'il n'a pas réussi à résoudre, quoi. Bah, c'est un peu le piège dans lequel tu peux tomber quand tu commences à faire un travail. Parce qu'en fait, c'est quand même un travail sur toi-même. Et puis, il y a aussi que tu cherches aussi à ce que ce travail soit apprécié. Et donc, c'est un peu un piège que tu rentres dans un cercle vicieux où tu te dis, bon, là, ça ne marche pas, mais peut-être demain, ça va marcher. Ou alors, tu as des trucs qui marchent, on te dit, ah ben, je vais continuer. Enfin, bref. Donc, je me suis embarquée là-dedans. Il y a une chose que je n'avais pas réalisée, c'est qu'en fait, l'univers du design, hein, tu vois, l'univers de la mode, du design, de la décoration, parce qu'on est quand même, on était quand même toujours ce que je faisais, donc apparemment, c'était quand même dans l'univers du décor, quand même, tu vois. Enfin, je n'avais pas la prétention d'être une artiste plasticienne, tu vois. Je restais, certes, une créatrice, mais pas, tu vois, pas une artiste plasticienne. Quand tu rentres dans l'univers de l'art plastique, c'est autre chose. Là, tu tapes, tu vois, vraiment, vers le haut. Tu es au-dessus, quoi, tu vois. Tu es...
Tu es au-dessus concrètement ou tu es au-dessus...
Tu es dans un autre univers, tu vois. Tu es, c'est une autre approche complètement. C'est beaucoup plus intellectuel. Le domaine du design, du décor... Alors, moi, maintenant, parce que je vois que les étudiants, on leur demande beaucoup plus aujourd'hui d'expliciter ce qu'ils font et d'argumenter et d'enrober, si tu veux, leur proposition. C'est pas enrober, mais disons en tout cas d'exprimer ce qu'ils ont voulu faire à travers leur proposition, tu vois. On leur demande quand même d'avoir
une intention.
Même en design, maintenant, aujourd'hui, je vois qu'on leur demande aussi ça. Quand j'y étais, si tu veux, on ne te demande pas d'en parler. On ne te demandait pas d'expliciter ce que tu faisais. Ça marche, ça ne marche pas. Point barre. Tu vois, ça accroche pas. Point barre. Tu n'as pas besoin de faire des discours. Voilà. Or là... Du coup, je suis arrivée dans un univers où, au contraire, il faut parler, dire pourquoi tu as fait ça. Il y a aussi le côté, ce que tu fais, c'est personne ne l'a fait avant. Il faut donner tes références. Il faut avoir beaucoup de références. Tu vois, d'autres artistes avant toi, etc. Par rapport à quel artiste tu as fait ça, enfin tu vois, faut donner un cadre dans lequel tu as le cadre dans le, intellectuel et artistique dans lequel tu as travaillé, enfin tout ça qui était pour moi totalement étranger. Donc je pense que là-dessus je me suis plantée complètement, tu vois, au début. Hein. Ça reste quand même un univers très particulier, l'univers de l'art plastique quand même. C'est très hiérarchisé.
Ah oui.
Ouais, justement.
Bon, on dirait pas comme ça de l'extérieur.
Alors voilà, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait de l'extérieur ça te semble un univers où justement il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde peut s'exprimer. C'est pas du tout ça. C'est hyper. Je pense que c'est. Moi je pense que c'est l'un des secteurs le plus hiérarchisé que j'ai connu, quoi. Mais ça se dit pas. Voilà. Et donc, aujourd'hui, où en est-on ? Où en suis-je ? Donc, alors comment dire ? Oui, moi j'ai quand même senti une forme d'ostracisme, c'est comme ça qu'on dit, hein, quand tu ne fais pas partie d'un groupe, quoi, tu vois, vraiment une forme d'ostracisme, et qu'il faut trouver finalement des petites portes ou des... Tu vois, des moyens, quoi, d'accéder à ça. Parce qu'en fait, la difficulté, si tu veux, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux, des choses géniales, mais si personne ne les voit, si personne... Bah, c'est comme si tu n'avais rien fait. Aujourd'hui, ce qu'on appelle un artiste, il n'est peut-être pas dans le même mode de fonctionnement que qu'un artiste du 18e, par exemple. Tu vois. Et aujourd'hui, il y a quand même cette idée, justement, de l'artiste qui est en dehors, quoi, un petit peu du quotidien, justement, qui est intellectualiste, parce qu'il y avait cette idée auparavant que l'artisan, c'était quelqu'un qui n'était pas forcément un intellectuel. Et je pense qu'il y a eu cette volonté pour les artistes de montrer que, ouais, ok, ils n'étaient quand même pas uniquement des gens qui savaient faire des choses avec leurs mains, quoi. Surtout en Europe, où c'est quand même très dévalorisé, l'aspect manuel, et ça revient maintenant. Hein. Enfin, peut-être qu'on revient là-dessus, mais quand même, il y a eu quand même toute une période où le fait de faire des choses avec les mains, ah, c'était quand même... Enfin, je veux dire, t'étais quand même pas... c'était pas valorisé du tout, je veux dire. Aujourd'hui, on est même passé au cap où non seulement on veut être intelligent, mais en plus, on veut pas faire forcément du beau. Et donc, maintenant, les écoles d'art ne s'appellent plus des écoles de beaux-arts, on dit les écoles d'art. Quoi. À Brest, on dit l'école européenne supérieure d'art, en tout cas. On dit plus l'école des beaux-arts. Reste. Donc, parce qu'il y a cette notion du beau qu'on veut plus, ou qu'on veut pas forcément, qui ne correspond plus, quoi, à l'idée de l'art. C'est plus forcément beau, quoi. On n'est pas obligé de faire des choses belles.
Il y a peut-être un aspect, je sais pas si c'est éducatif. Enfin, souvent, on peut très bien aller sur une œuvre et puis dire ça. Bah, c'est bon, c'est, ouais, c'est du gribouillis,
oui.
C'est un travail d'enfant de maternelle.
Ouais.
Mais en même temps, on ne nous a jamais enseigné qu'on avait le droit de s'interroger à partir de ces œuvres. Mm-mm. C'est-à-dire qu'on nous présente... Enfin, on a souvent l'impression, quand on arrive sur une exposition, qu'on est là pour voir quelque chose,
ouais,
comme tu disais quelque chose tout à l'heure avec les beaux-arts, quelque chose de beau, parce
de
que
beau.
Traditionnellement, on nous a
c'est
appris
ça.
Les beaux-arts. Mais
si,
on ne nous donne pas l'autorisation de s'interroger sur le travail, sur quelle était la démarche, quel était le propos, en fait.
Alors, je crois aussi, parce que tu vois, il y a aussi un problème de légitimité, parce que, et aussi un problème de diffusion. Parce que, par exemple, je pense, tu vois, quand on parle art appliqué et art plastique, je crois que je fais un petit peu cette corrélation entre, par exemple, le chercheur et l'ingénieur. Donc le chercheur, il cherche dans son laboratoire et on lui demande pas. Donc par exemple, imagine un public qui vient voir ce qu'il fait, il comprend rien, il trouve ça normal. Alors que l'ingénieur, lui, il va produire un travail qui va être... Ça marche ou ça marche pas, c'est pareil. Hein. L'ingénieur, si ça marche pas, il a pas bien travaillé. Mais c'est un peu pareil. Le plasticien, si tu veux, il va faire finalement un travail de réflexion, de chercheur un peu. Sauf que lui, le plasticien, il fait des expositions. Il montre ce qu'il fait. Et en face, la personne est censée avoir une réaction immédiate de plaisir, d'émotion, de contentement et de compréhension. Donc là, ça va plus. Parce que ça correspond plus à ce qu'aujourd'hui un plasticien ou une plasticienne fait, en fait. Parce que le plasticien et la plasticienne, justement, il est dans un mode chercher autre chose, aller vers autre chose, donc, comment dire, quelque chose d'inédit, donc de pas forcément compréhensible au premier coup d'œil. Je crois que c'est aussi ça, peut-être, cette difficulté. Alors, il y a des grands efforts de fait de médiation, justement, maintenant, de plus en plus. Justement, souvent, quand tu vas dans des centres d'art contemporain, tu vas voir quelqu'un qui va t'expliquer les œuvres. Tu vois, de plus en plus. Ça veut quand même bien dire que l'œuvre n'est plus, on n'arrive plus à appréhender l'œuvre comme ça. Moi, il y a un truc qui m'a vraiment frappé quand on est arrivé ici, c'est justement cette présence de la nature, tu vois, c'était omniprésent, quoi, ici, quand même, par rapport à la vie qu'on avait à Paris, une vie très citadine. Donc, quand on arrive à l'opérette, en plus, on choisit donc ce lieu éloigné même du village, de l'opérette. C'est ça, quoi, c'est cette omniprésence de la nature. Et ça m'a marqué, quoi. Et donc, j'ai commencé quand même, justement, à m'intéresser plus à ça. Ouais. Ou à revenir vers cet intérêt. Parce qu'en fait, comme quand même. Alors, donc ma mère, elle était d'origine paysanne. Et donc, mes grands-parents étaient agriculteurs. Donc, petite, qu'on avait ce rapport à la nature quand même. Et puis, on passait nos étés à la campagne. Et puis, on entendait parler. Moi, j'entendais parler mes oncles, mes tantes, de leur récolte, de leurs animaux, de leur machin, tout ça. Enfin, on avait quand même ce rapport-là à la nature. Et pour dire que cette idée, ouais, de nature-culture, c'est quand même quelque chose qui me préoccupe depuis pas mal de temps, quoi.
Du coup, il y a tout un projet que.
Alors, en fait, les choses. Non, au début, tu vois, c'était plus des questionnements que j'avais, sur lesquels j'ai travaillé, mais plus, tu vois. Par rapport à mon histoire personnelle, justement, par rapport justement à d'où je viens, le fait que moi, mes grands-parents étaient agriculteurs, etc. Et puis après, j'ai un peu mis ça de côté parce que du coup, ici à Brest, un peu un hasard de circonstances, mais je cherchais un lieu de travail. Et donc, j'ai loué un atelier dans un lieu qui s'appelait l'espace El Cause, qui était un lieu d'accueil pour les femmes. Du coup, ça m'a obligée vraiment à réfléchir à tout ça. Et du coup, ça m'a amenée aussi à faire des ateliers avec les femmes qui étaient accueillies là. Voilà. Donc il y a eu toute une période là où j'étais quand même orientée sur ce sujet-là, des relations, du féminisme, de la place des femmes dans le monde, etc. Mais finalement, c'est pas si loin que ça de la problématique de la nature, puisque là aussi on parle de nature-culture. Parce que qu'est-ce qu'on dit? On dit aussi, ben, c'est naturel qu'une femme s'occupe des enfants. C'est la nature. Donc là aussi, il y a une sorte de. Comment dire, questionnement qu'on peut se faire sur qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui l'est pas dans le comportement des hommes et des femmes, quoi. Voilà. Et puis suite à cette expérience dans ce lieu, j'ai continué à faire un autre projet avec un collectif qui s'appelle le collectif des Brestoises pour les droits des femmes. Et ensuite, ben, j'ai eu envie de ce sujet de la place qu'on a, de la relation qu'on a avec la nature, ben, j'ai eu envie de le reprendre, quoi. Alors, entre-temps, donc, j'ai créé une association avec Franck, mon conjoint, donc, une association pour monter des projets autour de l'art contemporain. Mais qui s'appuie sur des préoccupations contemporaines, quoi. Et donc, l'association ayant été créée, donc le premier sujet sur lequel on a travaillé, c'est ça. C'est le sujet de la nature. Et donc, j'avais donc Marie-Michèle Lucas, je l'avais rencontrée d'ailleurs dans cet espace d'accueil pour les femmes, parce que je lui avais demandé de venir faire une intervention auprès de ces femmes autour de la gravure. Bon, puis voilà, on s'était bien entendu, et donc je m'étais dit, tiens, ce serait intéressant de faire un autre projet avec Marie-Michèle. Donc, quand j'ai eu envie de faire ce sujet sur la nature, bah, je lui en ai parlé, et évidemment, Marie-Michèle, c'est un sujet qui la passionne. Donc, voilà, on a commencé à travailler ensemble. En fait, à chaque fois que je commence un projet, de toute façon, finalement, quel que soit le projet, j'aime bien tout le temps, justement, relier le faire et le penser, tu vois. Et donc, Parce que je trouve que tout ça est relié, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas de séparation entre les deux, en fin de compte. Et donc, dans ce projet sur la nature, j'avais cette envie aussi d'associer à la fois le faire et le penser. Et évidemment, comme moi, je ne suis pas une botaniste, je ne suis pas une biologiste, je suis pas, donc j'y connais rien. Donc voilà, je me suis dit que ce serait quand même vraiment intéressant de pouvoir relier, de pouvoir, faire dialoguer des gens comme nous, des artistes plasticiens, et qui s'interrogent sur ce sujet, et des personnes dont justement c'est le métier de comprendre la nature. Et quand je dis comprendre la nature, justement de s'interroger sur aussi qu'est-ce que c'est la nature. Et voilà, et du coup, c'est une porte ouverte à plein de découvertes.